Et pour commencer cette émission, nous accueillons Alison au 39-21. Bonsoir Alison.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Alison et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 40 ans et j'appelle d'Angers dans le 49 Maine-et-Loire.
D'accord. Vous nous avez déjà appelé, hein ?
Tout à fait.
D'accord. Est-ce que vous voulez résumer un petit peu ce pourquoi vous nous aviez appelé et quelle est votre situation ?
Oui, alors je vous avais appelé pour vous expliquer un petit peu mon parcours en tant qu'ancienne victime de violences conjugales. Donc moi, j'ai subi des violences conjugales pendant 4 ans et demi auprès de mon ex-conjoint, que j'appelle maintenant désormais mon bourreau. Mm-hmm. Ça a été, comme pour beaucoup d'autres victimes, très compliqué, le parcours du combattant. Parce qu'à partir du moment où on dépose plainte, ben, on fait face à des procédures qui sont pénibles, énergivores, qui vous... Ou en fait, si vous voulez, on est comment dire, régulièrement en tout cas confronté aux défaillances du système. Moi, j'ai fait face à un manque de protection des forces de l'ordre, c'est-à-dire que dès lors que j'ai porté plainte, rien ne s'est mis en place tout de suite. Les lumières rouges auraient dû s'allumer tout de suite puisque c'était quelqu'un qui était multirécidiviste. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. L'ordonnance de protection, elle a été mise en place, mais pas appliquée en tout cas. Oui. Et il a fallu en fait un drame supplémentaire 3 mois après, comme je vous l'avais déjà signifié. Donc en mars 2019, j'ai subi un viol. À partir de ce moment-là, il a été placé en détention provisoire. Puis il y a eu un procès en comparution immédiate. Hein. Et là, il a été condamné en fait à 19 mois de prison, 9 mois ferme, plus 10 mois de révocation d'un sursis pour violence conjugale et outrage et rébellion à agent, puisque lors de son arrestation, ça a été très musclé.
D'accord.
Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Alors, je suis en attente aussi, bien évidemment, de la cour d'assises pour le jugement en ce qui concerne le viol. Donc, cette cour d'assises aura lieu très certainement au premier trimestre de l'année prochaine.
D'accord. Et il devrait rester en détention jusque-là ?
Alors, normalement, là, si vous voulez, il a purgé sa peine. Donc, il aurait pu être libéré en avril l'année dernière.
Oui.
Donc, il a été maintenu en détention provisoire en attente de la cour d'assises. Alors, il y a malheureusement, la loi dit que nous n'avons pas le droit de maintenir une personne en détention provisoire plus de 18 mois. Et cette échéance arrive au mois d'octobre. Donc, avant, en fait, la tenue de la cour d'assises qui aura lieu entre janvier et mars de l'année prochaine. Donc, avec l'aide de mon avocate, que je peux citer parce que... elle n'y voit aucun inconvénient, donc Maître Bonadjunta Janine, on va effectivement se battre aussi pour faire obstacle à cette libération possible en octobre.
Oui, parce qu'il me semble que vous avez été à maintes reprises menacée hein, par cet homme qui est toujours en détention, mais oui. Que les confrontations qui se sont faites, dans mon souvenir, par vidéo, hein, conférence, ont été plus que chaudes,
compliquées.
En fait, hein, compliquées.
Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent toujours au-dessus des lois. C'est-à-dire que lui, il respecte aucune forme d'autorité, même celle de la justice, même celle des magistrats. C'est-à-dire qu'à chaque confrontation, on a eu affaire à quelqu'un qui coupait la parole aux magistrats, qui coupait la parole aux juges d'instruction, aux juges du cours d'appel. Il a vraiment aucun cadre, en fait, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement imprévisible mm-hmm. et qui se fout de tout. Voilà, tout
et simplement. Qui est victime,
donc, ça a
au
été
passage.
Et voilà, qui est dans un transfert de culpabilité et qui se victimise. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les faits, même quand on lui prouve, quand on lui met les preuves en fait, sous le nez, il va nier l'évidence.
Mm-hmm. Alors, je rappelle que les violences que vous aviez subies étaient très graves, bien évidemment, puisque au bout, oui. Il y a un viol qui donc sera jugé en cour d'assises au mois de janvier. Ces violences, elles ont été exercées aussi sur vos enfants, dont l'une avait 14 ans ou 13 ans à l'époque, me semble-t-il.
Alors oui, les filles, alors Lana, elle avait 11 ans et Laurine, elle avait 13 ans et demi, c'est ça.
D'accord. Mm. Alors, quel est l'objet de votre appel, Alison ?
Alors, l'objet de mon appel, déjà, il faut savoir que c'est part, on oublie de le dire souvent, hein, on bascule dans la précarité, clairement. Donc moi, déjà, lors de sa première incarcération, puisqu'il y avait eu une première incarcération en 2015, il avait pris 6 mois ferme, j'ai dû malheureusement quitter mon logement dans l'urgence et j'ai tout perdu, mais vraiment tout. C'est-à-dire que de mai 2015 à décembre 2016, je me suis retrouvée donc, avec mes deux filles, sans domicile fixe. Donc ça a été très difficile comme période à vivre, hein, parce que bon, vous avez vos enfants en fait, n'ont plus accès à leurs affaires. La totalité de nos affaires était rangée dans un garage. Donc elles n'avaient pas accès à leurs jouets, etc. Et ça, c'est une situation que je ne souhaite pas revivre. Et malheureusement, je peux y être confrontée incessamment sous peu. Alors, je vais m'expliquer. Donc, depuis, à partir de décembre 2016, j'ai été accompagnée par une association qui s'appelle Anjou Insertion Habitat. Donc, cette association, elle a été missionnée par le département, elle est financée d'ailleurs par le département, afin de me loger, donc de me proposer cette maison en sous-location. Et ensuite, sa mission est effectivement de m'accompagner à un relogement qui s'inscrit en tout cas dans la durée, qui est plus pérenne. Et du coup, normalement, la prise en charge, enfin, l'accompagnement est financé en tout cas par le département, pardon, pendant 24 mois maximum. Aujourd'hui, si on calcule, je suis déjà à 4 ans et demi. Donc, cette association est missionnée pour me trouver un logement. Malheureusement, depuis, je n'ai eu aucune proposition de logement. Et aujourd'hui, enfin hier en tout cas, on m'a transmis un courrier me stipulant que la prise en charge par le département allait cesser et que par conséquent, le logement dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui est lié en fait à cette prise en charge, eh ben, je ne pourrais pas y demeurer. Donc clairement, on est en train de me dire qu'il va falloir refaire nos valises, partir et avoir recours en fait à un hébergement d'urgence. Donc l'hébergement d'urgence, qu'on soit clair, ça veut dire on appelle le 115 et on se retrouve de nouveau dans un hôtel.
D'accord. Comment se fait-il en fait que votre dossier n'ait pas été suivi, que vous n'ayez eu aucune proposition de relogement?
Alors, bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors déjà, moi, l'office HLM dans lequel je me trouvais lorsque moi j'avais mon propre logement, déjà, eux m'ont blacklisté. Parce que, alors, je vais me permettre de faire un peu d'ironie, mais c'est vrai qu'il faudrait penser à former les femmes à encaisser les coups en silence, parce que sinon, ça dérange les voisins. Donc forcément, moi, il y a eu des plaintes du voisinage. Et malgré ma situation, on n'a pas cherché à la comprendre. Et du coup, on m'a blacklisté. Donc déjà, il y a un office d'HLM qui refuse aujourd'hui de me reloger dans leur parc. Donc ça, c'est clairement de la discrimination, n'ayant pas peur des mots.
Et ensuite, pourquoi, Alison, je n'ai pas très bien compris, pourquoi, quelle est la raison de cette discrimination, en fait, du fait que vous soyez blacklisté?
Bah parce qu'en fait, quand moi, je me faisais frapper, alors vous imaginez que lui, déjà, il hurlait énormément.
Ah oui, d'accord, et donc puis, bah, pour nuisance, voilà. En fait.
Eh bien, c'est ça pour une nuisance sonore. C'est pour ça que je faisais un peu d'humour noir en vous disant qu'il faudrait apprendre aux femmes battues à encaisser en fait, les coups en silence parce que malheureusement, vraiment, enfin, ça peut porter préjudice. C'est très, très ironique ce que je dis, mais c'est tout à fait ce qui se passe dans la réalité.
D'accord.
Donc, ben, moi, je suis en fait pénalisée d'avoir été victime. Ce qui est tout à fait juste illogique, inhumain, enfin, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il n'y a même pas assez de mots assez forts en fait, pour décrire cette attitude.
Voilà. Il n'y a rien à faire vis-à-vis de l'office HLM pour rattraper un peu tout ça, à votre avis?
On a tenté. Après, je pense qu'il faut en tout cas actionner des leviers, en tout cas s'adresser aux bonnes personnes. Alors, quand on est une personne lambda et qu'on ne connaît pas les bonnes personnes, je pense que c'est hyper compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai cette chance quand même parce que je me suis énormément impliquée puisque j'ai fondé l'association Les Roses et l'Espoir, c'est pas une heure sans violence. Donc, j'ai quand même côtoyer, on va dire, les bonnes personnes. Donc aujourd'hui, j'ai aussi passé énormément de coups de fil. J'ai alerté, en fait, le président du conseil départemental. J'ai aussi alerté des adjoints de la mairie. Voilà, j'essaye d'actionner tous les leviers parce que j'ai cette chance-là de pouvoir le faire. Et j'espère bien que ça va bouger. Mais je me dis, je parle ce soir pour ma situation, mais en même temps, je pense à toutes ces autres femmes qui certainement vivent la même chose que moi, parce que je ne dois pas être un cas isolé, ça c'est une certitude.
Bien évidemment.
Et je me dis, elles ont quel recours?
Elles
ont quel recours?
Dans une situation d'urgence en plus, où ces femmes souvent pensent à se protéger, vivent dans la peur, il est certain que c'est très compliqué d'avoir la tête à chercher un appartement. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Lisanne, et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord?
Merci beaucoup.
À tout de suite.
Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h47 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 3921 pour nous parler. Nous sommes là pour vous écouter, je vous le rappelle. Et même si cette libre antenne est un peu courte, durant l'euro, vous savez que vous pouvez appeler. Florian et Natacha sont là et attendre vos appels en régie, chers amis. Nous sommes avec Alison. Alison qui nous parle du danger d'être expulsée et de se retrouver sans domicile fixe suite aux violences qu'elle a subies. Il y a combien de temps maintenant? Vous avez subi ça pendant 4 ans, vous m'avez dit. Hein.
Alors, 4 ans et 8 mois. Donc, d'avril 2014 à décembre 2018.
Mmh. Aujourd'hui, en fait, vos deux enfants vivent avec vous?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui peut vous être proposé? Il n'y a pas aujourd'hui d'association qui aide les femmes qui sont dans votre situation à trouver un logement?
Si, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais aussi au sein de l'association, mais ça reste les associations. Ce qu'elles proposent, en fait, c'est l'hébergement d'urgence. Hein. Après, c'est aux bailleurs sociaux, en fait, de faire leur travail et de proposer des logements plus pérennes. Le problème aussi, tout à l'heure, vous me posiez la question, mais qu'est-ce qui a freiné, en fait, le fait qu'on ne propose pas de logement? Je veux dire clairement aussi, c'est que, en fait, il faudrait accepter de vivre dans des quartiers malfamés d'Angers. Moi, je le refuse, donc forcément, ça a aussi...
Faites attention, Alison, parce que je vous perds régulièrement. Vous devez aller dans des zones de chez vous qui ne captent pas bien.
J'avoue qu'en ce moment, chez mon opérateur, il y a quelques soucis de réseau. Malheureusement, j'ai pas de pièces. Quelques jours, j'ai des soucis de réseau.
D'accord, parce que je vous perds beaucoup là, en fait. Donc, on vous propose.
C'est ça. Bah, en fait, il faudrait que j'accepte d'aller vivre dans un logement dans des quartiers en fait qui sont malfamés d'Angers. Moi, j'ai pas du tout envie. Alors, entre autres, on me propose un des quartiers où mon ex-conjoint en fait a grandi. C'est-à-dire qu'il y a tous ses proches, tout son environnement amical qui s'y trouve. Donc, évidemment, je ne vais pas y aller parce que ce ne serait pas sécurisé ni pour moi ni pour mes filles. Donc, ça, elle en est hors de question. Et sinon, on me propose deux autres quartiers. Il faudrait que deux autres quartiers qui aussi, aujourd'hui, n'est pas, en tout cas, dans lequel j'ai envie de dire mes enfants. Je pense que, moi, on a assez souffert.
Je vous perds beaucoup, Alison. Je vous perds beaucoup. Je suis désolé. Je ne vous entends vraiment pas bien. Au début, je vous entendais vraiment très bien, mais là, je vous perds.
Mieux là ou pas?
Ouais, c'est pas encore génial, mais j'ai compris qu'on vous proposait des quartiers dont celui où votre agresseur vivait et où sa famille doit résider.
Tout à fait.
On ne vous propose pas d'autre chose, un appartement ou une maison comme vous avez en ce moment?
Non, on m'a rien proposé. Pour l'instant, on n'a rien proposé.
Est-ce que votre situation, elle illustre finalement la situation de beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent ce genre de choses?
Oui. Il y a énormément de femmes, c'est ce que je disais, hein, qui, quand elles partent, elles perdent tout. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui en France, c'est quand même à la femme de fuir. Donc on quitte précipitamment en fait, notre logement. Et puis on se retrouve, en fait, pour la plupart, hébergés par des associations. Donc c'est pas... Heureusement qu'elles existent, mais ce n'est pas l'idéal. Moi, j'ose même dire que normalement, ce n'est pas la victime en fait, de se retrouver dans des hébergements, des associations et avec des situations et pas plaisantes en fait, pour une victime, surtout quand on vient de vivre ces choses-là et qu'on est déjà épuisé physiquement et moralement. Je pense que normalement, le gouvernement devrait d'ailleurs anticiper ce genre de situation pour que... Il faudrait presque normalement que les associations comme celles qui proposent des hébergements femmes, elles ne devraient même pas exister, si tu veux, Olivier. L'État, il devrait, en fait, anticiper ce genre de choses. Mais malheureusement, bon, il n'y a pas. Aujourd'hui, moi, au jour où je te parle, je n'ai aucune proposition. Donc moi, je suis en stress. Imagine bien que, même avec les filles qu'on a parlé, bon, elles ont beaucoup pleuré aussi, parce qu'elles n'ont pas envie de revivre de nouveau... sans leurs affaires, sans la possibilité de recevoir leurs copines, parce que quand on est hébergé en hôtel, il y a une confidentialité d'adresse. Ça veut dire souvent aussi, bon, elles ont 13 et 17 ans, c'est des ados. À l'adolescence, on sait aussi qu'on a ce besoin d'intimité, c'est important. Quand on va dans un hôtel, on est toutes dans la même chambre. Et la douche, parce que souvent on nous met dans des Formule 1, la douche à l'extérieur, etc. Donc pour des adolescents, toute cette situation, elle est difficile à vivre. Parce qu'elles n'ont plus du tout leur espace à elles, elles n'ont plus la possibilité d'avoir accès en fait à leur doudou, à leurs jouets. Enfin, on ne peut pas tout appeler dans une chambre d'hôtel, on amène le minimum. Bien et ça, vivre avec le minimum de manière un petit peu trop... c'est inhumain. Nous, on l'a vécu pendant un an et demi, et je n'ai pas du tout envie que ça se reproduise. Et à un moment donné, je me dis, vous me disiez, alors, à quel moment, en fait, je suis partie. Je suis partie en décembre 2018. Donc, ça fait quand même 2 ans et demi. 2 ans et demi plus tard, vous voyez, on a encore le fardeau. On est encore sur une croix, si j'ose dire. Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'en fait, on va pouvoir, à un moment donné, tourner la page? Quand est-ce qu'on va pouvoir vivre comme n'importe qui d'autre?
Oui, oui.
Et non, c'est pénible. Surtout, je vous le dis, je vous le disais tout à l'heure, il y a cette cour d'assises aussi qui va venir. C'est ma dernière ligne droite. Je suis aussi dans cette préparation-là. C'est aussi très difficile et épuisant moralement. Là, je n'ai pas besoin, en fait, de me soucier aussi de savoir où je vais dormir avec mes enfants demain. J'ai besoin de toute mon... J'ai besoin de, justement de me sentir bien chez moi, dans mon environnement, et de pouvoir me préparer sereinement à cette cour d'assises qui va venir.
Non, mais de toute façon, dans la situation que vous avez traversée, qui est une situation qui a été extrêmement, extrêmement lourde pour vous et vos enfants, déstructurante, c'était le mot que je cherchais, il est certain que le gouvernement, en tout cas que l'État, devrait avoir anticipé ce type de situation, parce que on vous a ce soir au téléphone, mais on imagine que c'est la situation de toutes les femmes qui aujourd'hui sont contraintes de quitter leur logement parce qu'elles sont en danger de mort. Et c'est là où votre situation est totalement aberrante. Et encore une fois, on voit que nous sommes très très en retard sur cette question, parce que on ne traite pas cette problématique dans sa globalité, en fait. On essaie de combattre ces violences sur des secteurs, en fait. On va essayer de combattre en rendant les agresseurs moins dangereux. On va s'occuper de les soigner. Trouver des solutions pour ces femmes, des solutions qui ne durent pas longtemps, en fait. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un travail de fond qui est possible à faire avec ces femmes et ces familles. Hein. Finalement, vous êtes une petite famille, là, qui va se retrouver en vadrouille. Et c'est insupportable, cette idée-là. Oui.
C'est ça. Oui, moi, pour moi, c'est insupportable. Et pour les filles, c'est insupportable. Et c'est ce qui...
Je vous perds à nouveau, Alison. Je vous perds. Vous avez dû vous déplacer.
Ce qui me met, moi, en colère, en fait, aussi, c'est que, encore une fois, je fais le constat qu'on est dans un pays où il y a plus de droits pour les auteurs que pour les victimes. Parce qu'on le sait bien, moi, je l'ai vu par le passé, quand il est sorti de sa première incarcération en 2015, lui, dès lors qu'il a mis un pied dehors, on lui avait déjà trouvé un logement, on lui avait retrouvé un emploi. On les aide à se réinsérer professionnellement, on leur trouve un logement, tout va bien pour eux. Alors que moi, victime, et comme toutes les autres victimes, et ben souvent, voilà, on n'a rien. Nous, on ne nous propose pas de nous reloger. Nous, on ne nous propose pas de nous réinsérer. Et ça, c'est juste pas normal. Parce que en deux, il avait son logement. Donc moi,
je vous perds. Je pars. J'ai qu'un mot sur trois là, en fait.
D'accord.
Vous disiez que lui avait eu pas mal de propositions de réinsertion, en fait, c'est ça?
Ah ben, quand il est sorti de prison, lors de sa première incarcération, lui, il avait un logement. On lui a donné un logement. Alors que moi, j'étais encore sans domicile fixe au moment où il est sorti. Vous imaginez ce que j'ai pu ressentir à
bien
ce
sûr,
moment-là?
Bien sûr, bien sûr.
Et ça, je ne trouve pas ça normal. Et c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a plus de choses qui sont mises en place pour les auteurs. Et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, Olivier. Attention. Il faut aussi les réinsérer. Parce que ça évite, évidemment, le récidivisme. Il ne faut pas en oublier les victimes, quand même.
Quelle solution vous proposeriez-vous? Quelle solution vous proposeriez?
Je veux dire ça. Moi, j'accompagne des victimes depuis quelque temps. Évidemment, je saisis le SIAO 49. Donc, c'est une association, en fait, un organisme, en tout cas, qui va saisir des associations pour proposer des hébergements. Et puis ensuite, ça ne bouge pas, on va saisir le ballon. D'ailleurs, c'est ce que moi, je m'apprête personnellement à faire. Parce que quand on est dans un délai anormalement long, où on n'a pas de proposition de logement, eh ben, on peut saisir la loi Dalo. La loi Dalo, c'est au niveau de la préfecture. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui va étudier votre dossier et ensuite, elle va valider le fait de pouvoir rentrer, en tout cas actionner ce dispositif de la loi Dalo. Et ensuite, elle va désigner un office HLM et lui donner en fait l'impératif de trouver un logement à la personne dans les 3 mois à venir. Ils ont 3 mois maximum pour proposer un rendez-vous. Effectivement.
Est-ce que vous seriez prête, nous demande l'une de nos auditrices, à changer de ville, en fait? Parce que pour les enfants, ça doit être compliqué. On vous propose des logements ailleurs, dans d'autres villes?
Alors non, parce qu'en fait, ça n'a pas été mon choix. Alors j'ai aussi, moi, mon côté aussi âme de guerrière, et je ne trouve pas ça normal. Justement, je trouve que c'est trop récurrent de demander aux femmes de partir loin. Moi, c'est me déraciner. Moi, je suis née à Angers. J'ai grandi à Angers. Tout mon tissu, mon environnement, il est à Angers. C'est pour ça que j'avais refusé. Aujourd'hui, en plus, je suis en train de me reconvertir professionnellement. Là, je suis en train de partir sur de nouveaux projets professionnels. Donc là, rester sur Angers, pour moi, c'est impératif.
Oui,
j'ai besoin de m'épanouir aussi professionnellement.
Vous avez besoin de vous construire.
Ben, c'est ça. Et puis après, mes filles, parce que mon bourreau était le beau-père des filles, hein, il n'était pas leur papa. Donc en fait, le papa des filles, il est présent dans leur vie et il habite à Angers. C'est-à-dire que moi, si je pars d'Angers, ben, en fait, je prive mes enfants aussi de leur papa. Et ça, c'est pas possible pour moi.
On va laissez passer l'info sur Europe 1, si vous voulez, Alison, et puis on conclura juste après. Vous restez en ligne. Hein. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Alison. Alison qui est menacée d'être expulsée, en tout cas de perdre le logement qu'elle occupe avec ses deux filles. Logement qu'on lui a attribué suite aux violences qu'elle a subies. Alison, je reviens sur un SMS que nous avons reçu d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous dit que madame refuse certains logements, elle veut vivre dans les beaux quartiers, ne paye rien depuis 4 ans. Non, vous payez un loyer. Je dois apporter cette précision importante, c'est que vous payez un loyer tout à fait normal.
Mon loyer, il est à 444 euros par mois. Hein, c'est un loyer tout à fait classique. Quand on parle de financement, enfin, tout à l'heure, quand j'évoquais en fait le financement du département, on finance le travailleur social de l'association qui m'accompagne à trouver une solution de relogement. Hein. On ne finance pas le logement, l'appartement. Donc ça fait 4 ans et demi que je suis là-bas, 4 ans et demi que je paye mon loyer comme tout le monde.
Non, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, Alison?
Dans les jours qui viennent, alors moi j'essaye un petit peu évidemment de mobiliser un petit peu les troupes autour de moi. Donc je vais certainement, d'ici la semaine prochaine, on va faire une action et faire un rassemblement coup de poing devant la préfecture du Maine-et-Loire pour essayer de faire bouger les choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais aussi saisir la loi, la fameuse loi Dalo, pour avoir cette chance en tout cas d'avoir un petit coup de pression sur les offices d'HLM avec cette obligation de trouver une solution de relogement dans les 3 mois à venir. Pardon. Et puis j'ai aussi Aurore Le Goff qui est peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est auteur de plusieurs livres sur cette question des violences conjugales, qui a aussi relayé un appel à l'aide en format vidéo sur différents réseaux sociaux. Voilà, j'essaye en tout cas de me mobiliser. Après, pour moi, je me suis renseignée aussi hein, auprès des juristes. J'ai aussi Maître Bonajunta avec qui j'ai échangé hier. Évidemment, il est hors de question de me laisser faire, hors de question de quitter ce logement parce qu'on n'a pas le droit. C'est pas humain en fait de mettre une mère avec deux enfants à la rue. Donc, je vais me battre et je vais croiser les doigts. J'espère évidemment que ça va bouger et surtout, j'espère que, que les gens vont entendre aussi cet appel-là. Et en gardant toujours à l'esprit que ma situation, c'est celle de beaucoup d'autres. Ma voix ce soir, c'est la voix de toutes ces autres femmes qui ont la même situation que la mienne.
Très bien, en tout cas, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant hein, sur votre situation, parce que je le rappelle, elle met en lumière la situation de toutes ces femmes qui sont obligées de fuir hein, à un moment et à être relogées. Donc, tenez-nous au courant, Alison, on sera là.
Je ne manquerai pas.
On sera là pour en parler, d'accord?
Merci, merci beaucoup.
Bah écoutez, courage à vous et passez une bonne soirée et embrassez vos enfants pour nous.
Merci,
au revoir.